Pensée la Science, une émission proposée et animée par David Mascret. Dans mon émission Pensée la Science, j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Maxence Caron. Maxence Caron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous êtes docteur en philosophie, agrégé. Un de vos ouvrages a été couronné par l'Académie française. Vous avez réalisé un grand nombre d'ouvrages extrêmement intéressants, dont tout récemment La vérité captive de la philosophie, paru aux éditions du Cerf et Ad Solem. Immense ouvrage, tant par la taille que par la qualité littéraire et la profondeur de réflexion. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans mon émission pour évoquer cette question qui, évidemment, rentre directement en ligne de compte, en phase avec nos préoccupations particulières spécifiques à cette émission, puisque l'une des questions clés que vous abordez, comme le titre l'indique, c'est la question de la vérité. Alors, tout de suite, peut-être une première question. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette question et à l'aborder de cette manière ?
S'intéresser à la question de la vérité, je dirais qu'on ne peut pas être motivé autrement que par quelque chose de viscéral, et viscéral au sens non organique, pour cette question qui est finalement l'unique question. On est traversé à tout instant de son existence par des propositions que nous émettons sur le plan langagier. Nous sommes structurés par diverses propositions, nous sommes structurés également par ce vers quoi notre cœur nous conduit, et notre cœur a un besoin de vérité qui est absolument inextinguible, même chez tous les grands sceptiques, qu'ils soient philosophiques, même chez tous les petits sceptiques qui pullulent au café du commerce, il y a toujours une volonté d'aller plus loin dans la quête de vérité, ne serait-ce que pour évincer les petites vérités ou les grandes vérités dont les petits sceptiques ou les grands sceptiques ne veulent pas. Donc la vérité en elle-même est ce qui meut, est ce qui conduit, est ce qui dirige l'âme vers quelque chose de plus grand qu'elle et qui la structure. Alors pourquoi ai-je voulu parler de la vérité ? Parce que la vérité est tout simplement l'objet que se donne la philosophie depuis qu'elle s'est constituée philosophie. Quand s'est-elle constituée philosophie ? Je ne sais pas exactement, je n'y étais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à la base, la philosophie est une quête de vérité.
Est-ce que dans votre démarche, il y a, à côté de cet engagement, j'allais dire personnel et professionnel, une dimension existentielle ?
Dans quel sens
Est-ce que cette recherche ou cette interrogation sur la vérité était en quelque sorte purement universitaire, ou est-ce que quelque part la dimension de la vérité est quelque chose qui nous engage, qui nous prend aux tripes, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes?
Non, nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes par cette vérité. Il y a, comme dirait Pascal, ces extravagantes créatures. Il utilise ce terme pour parler de ses contemporains, de ses non-contemporains, enfin bref, de l'humanité en général. Ces créatures extravagantes qui ne se sentent pas concernées par la question de la vérité. Bon, je vous avoue que pour ma part, je ne parlerai pas au nom des autres, mais pour ma petite part personnelle, pour mon idiosyncrasie minuscule, il se trouve que la question de la vérité est quelque chose, une dimension très certainement fondamentale. Je ne vois pas comment je pourrais me lever le matin si jamais la question ne se posait pas et si la réponse ne laissait pas filtrer quelques lueurs. Des lueurs que j'ai voulu évidemment rendre un peu plus claires.
Alors précisément, votre travail constitue un immense effort de clarification en même temps que de synthèse, et pourtant il est extrêmement volumineux. Alors, la vérité mérite-t-elle qu'on lui consacre tant de pages, ou qu'est-ce qui motive cet approfondissement, cette entrée dans le détail pour une question qui finalement peut sembler la plus commune du monde?
J'écrirais moins si le péché originel n'était pas. C'est-à-dire que on pourrait résumer dans ces cas-là la formule de l'univers et des choses et de ce qui surpasse l'univers et le crée en un mot. Et à ce moment-là, ce serait très simple. Le mot que prononce Dieu quand il prononce son Fils, qui est le Verbe. À ce moment-là, nous serions par-delà les choses, par-delà le monde, par-delà l'univers. Nous serions au plus près la grammaire trinitaire qui surpasse nos âmes et qui en même temps s'inscrit au plus profond d'elle afin de pouvoir être recherchée par nos âmes vers cette fin sublime que la Trinité compose.
Mais... Anselme le dit d'une autre manière en réfléchissant au fait que quelque part aucun de nos mots n'est adéquat pour dire la plénitude de Dieu et qu'en un sens c'est ce qui explique ce passage par le discours et par la lenteur et la longueur du discours. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de cet ordre dans l'acte philosophique, dans le fait de passer par le langage pour exprimer quelque chose du divin?
L'acte philosophique est une sublime déchéance, au sens où il montre bien la distance à laquelle nous sommes de la vérité, mais il montre bien en même temps notre incapacité de ne pas être sollicité par la vérité. Donc pourquoi philosopher ? Pour retrouver en nous une manière de réintégrer telle et telle parcelle et parse de notre univers intime au sein d'une totalité qui nous conduit vers l'essentiel, qui dépasse absolument tous les domaines donnés. La philosophie est pour cela une quête d'unité vers une unité effectivement indicible, mais dont l'indicibilité, le sens d'indicibilité, peut être circonscrit, non pas au sens où on pourrait l'embrasser, l'enfermer au sein de nos concepts, mais du moins le désigner. Et la philosophie désigne le lieu où la foi devra s'installer. Donc il est très rationnellement possible de montrer rationnellement par la raison que la foi a un secteur légitime d'exercice sans que l'on soit obligé de tomber dans la croyance subjective. La foi est quelque chose de très objectif et non pas une petite croyance parmi d'autres comme celle de croire que la divinité est dans une vache comme en Inde ou que tel animal est sacré ou que les plantes sont animées d'un pouvoir quelconque, ce genre de choses. Non, la rationalité montre que désigner quel est l'endroit où s'installer pour attendre l'initiative de Dieu est un acte rationnel. C'est le sens de la démarche que j'ai voulu montrer dans ce livre, bon, qui n'est pas un livre comme les autres livres de philosophie, ce n'est pas un livre universitaire. Qu'est-ce que l'université aujourd'hui ? Une espèce de désert où s'agitent des cactus qui s'entrepiquent pour pouvoir essayer de faire carrière. Bon, ils sont très mignons, mais moi, ils ne m'intéressent pas. Donc ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est de montrer que nous arrivons à une époque assez considérable de l'histoire, à la fois dans sa nullité et en même temps dans son caractère historial, c'est-à-dire son caractère fondamental. C'est une époque qui fait sens et qui doit montrer que nous arrivons à une sorte de fin, finalité en même temps, où le règne de la spiritualité chrétienne apparaît à la philosophie comme ce qui la sous-tend, comme ce que la philosophie a toujours fui, et comme ce vers quoi elle doit se diriger pour pouvoir enfin trouver ce qu'elle a toujours refoulé, et ce refoulement l'ayant finalement empêché de se trouver elle-même.
Alors, vous répondez en partie à ma question, effectivement, en montrant cette capacité de la raison à sonder quelque chose de ce mystère de la vérité, mais on sait que les objections sont nombreuses et que beaucoup contestent même cette légitimité de la philosophie à parler de la question de la vérité. Pascal, au premier chef, disait que la philosophie ne mérite pas qu'on lui consacre une heure de peine.
De quelle philosophie s'agit-il?
Alors, précisément, c'est sans doute là où vous allez me répondre. Mais d'autres vous diraient aujourd'hui que la question de la vérité n'est pas l'objet propre de la philosophie, mais qu'elle fait plutôt partie de la théologie. D'autres vous diront qu'elle est de l'ordre de la mystique. D'autres vous diront qu'elle est l'objet de la science. Oui. D'autres vous diront même qu'elle est l'objet de l'expérience concrète et quotidienne.
Alors, qu'est-ce
que la philosophie peut apporter de plus sur cette question, et en quoi est-elle légitime pour parler de la question de la vérité?
Justement, c'est la raison pour laquelle l'ouvrage se sous-intitule de la philosophie, car il s'agit de savoir exactement ce qu'est la philosophie dans l'histoire. Aujourd'hui, la philosophie, c'est un petit mot, un petit vernis que l'on applique sur un traitement de la réalité des choses, afin de lui donner une sorte de légitimité splendide. Alors j'ai ma philosophie de ceci, ma philosophie de cela. D'ailleurs, on le remplace souvent par le mot phénoménologie, pour montrer qu'on est encore plus objectif que quand on voulait être objectif.
Donc, on parle terme allemand Weltanschauung, une vision du monde. Quelque part, la philosophie, c'est une forme de vision subjective, personnelle.
C'est d'être la phénoménologie a voulu mettre fin au terme de Weltanschauung, c'est-à-dire a voulu prétendre à une objectivité capable de mettre fin aux visions subjectives du monde. Mais en tant que telle, la philosophie est un vernis que l'on badigeonne sur différentes doctrines totalement subjectives afin de pouvoir prétendre à une validité du discours. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que
un pouvoir.
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un acte totalement contradictoire d'utiliser le terme philosophique de cette façon, puisque vous prenez dans ces cas-là la philosophie pour une imbécile, et d'autre part, vous prenez son aura, sa singularité d'objectivité, pour justement vernir votre petite subjectivité idiosyncrasique, afin de lui donner une légitimité supplémentaire. Donc on est, si vous voulez, en pleine schizophrénie. C'est précisément le problème de l'époque, c'est que vous avez un amas de petits bons hommes qui vont faire des essais. Ils font des essais. Au lieu d'essayer, ils devraient faire, ce serait déjà pas mal. Donc, et à partir de leurs essais subjectifs, ils vont intituler cela philosophie du X, philosophie de l'Y, etc. Bon,
philosophie de l'étang, philosophie de l'amour, oui, philosophie de la vie, voilà, philosophie politique.
On fait plein de
philosophies. Philosophie du capitalisme.
Voilà. On n'a jamais autant dévalorisé la philosophie et on ne l'a jamais autant utilisée comme facteur commun de la plupart des tentatives de réflexion qu'on opère d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est très intéressant. Alors, pourquoi dévalorise-t-on et pourquoi, par ailleurs, revalorise-t-on de cette façon-là? Mais c'est très simple, c'est que dans le substrat de la philosophie, il y a de toute façon quelque chose qu'on ne peut pas évacuer, c'est sa prétention à l'objectivité. Cette prétention à l'objectivité est quelque chose de très inconscient chez les hommes. Et ils ont beau professer un subjectivisme intégral, ils ont beau professer un relativisme intégral, un scepticisme intégral, bref, une imbécilité intégrale, de toute façon, à chaque fois, ils auront une revendication objective, même quand ils se traiteront eux-mêmes d'imbéciles. Ils voudront toujours être le meilleur imbécile de tous les temps. Donc, de quoi qu'il arrive, ils dessineront le cadre au sein duquel ils seront l'unique à la place de l'unique auquel on devrait se consacrer, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est, si on abolit Dieu, si on abolit la vérité, etc., c'est pour pouvoir être soi-même un Olympien. Si on abolit l'Olympe, c'est pour pouvoir être soi-même Zeus. Donc, c'est précisément ce que font les gens quand ils expliquent que tout est relatif et qu'ils reprennent les concepts qu'ils ont abolis pour pouvoir les appliquer à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, quand on abolit la philosophie, soi-disant, pour la mettre ensuite dans tel ou tel secteur de réalité, c'est pour pouvoir donner à tel ou tel secteur de réalité la validité d'une philosophie. Donc le relativisme a beau créer une dissémination, ce n'est que pour durcir chaque domaine dans lequel les choses ont été disséminées. Donc voilà, vous remarquerez, moi, la contradiction qui est énorme, bon, devant cette contradiction, il s'agit tout simplement d'arrêter de tourner en rond pour se cogner dans les coins, donc, et tout simplement avoir une démarche enfin raisonnable, une démarche adulte sur le plan de la pensée.
Si je vous comprends bien, la multiplication des philosophies signe en réalité la fin de la philosophie, ou en tout cas sa déliquescence.
Mais non, justement, la multiplication des philosophies montre bien qu'il y a un facteur commun à la philosophie, et que c'est bien celui-là qu'il faut aller rechercher. À chaque fois qu'un gentil Ali Boron ou qu'une petite arsouille du concept restreint va vous pondre une théorie, une de plus, que fait-il? Il se drape dans la dignité du concept. Un autre va le faire, etc. De toutes ces tentatives diverses et variées, il y a, dans toutes ces tentatives, il y a quelque chose de substantiel. C'est cette substance qu'il faut pouvoir dégager. Cette substance que l'on peut dégager, c'est la réflexivité à l'œuvre au fond de chaque tentative de pensée. Et c'est à partir de là que l'on peut voir que la philosophie n'a jamais été aussi dispersée, aussi dévalorisée dans sa capacité à trouver la vérité. Et oui, peut-être, mais en même temps, elle n'a jamais été aussi utilisée pour pouvoir vernir d'un glacis de vérité, d'un glacis noble de vérité, les différents petits domaines au sein desquels on veut la confisquer pour pouvoir justement consolider ces domaines. Donc il s'agit tout simplement de prendre ce qu'il y a de commun dans toutes ces disséminations pour pouvoir voir à l'œuvre une puissance de réflexivité, et c'est à ce moment-là, dans cette puissance de réflexivité, que l'on va voir combien la philosophie est à la fois refoulée dans sa force et en même temps en attente d'une réflexion qui prenne en charge la réflexion elle-même qu'est la philosophie. Le but de ce livre, La vérité captive, précisément de remonter aux sources de la possibilité des différents discours philosophiques et de remonter à la possibilité du refoulement que l'on opère à partir de l'utilisation des différentes sortes de discours théoriques.
Alors vous avez bien souligné effectivement quelques-uns des aspects auxquels vous conduit votre ouvrage et votre réflexion, mais avant d'y venir en profondeur, ne peut-on signaler justement ce qui a marqué le commencement de cette dérive en quelque sorte? On avait le sentiment que pendant toute une époque, sans doute l'Antiquité grecque, la période médiévale et au moins une partie de l'époque classique, la métaphysique, puisque c'est le nom de cette partie supérieure de la philosophie qui s'attachait à sonder les premiers principes, cherchait à comprendre ce qui faisait l'unité de l'être et du réel, et surtout quels étaient les moyens qui nous permettaient à nous autres humains, avec la constitution qui est la nôtre, d'accéder à ce réel et d'en dégager ses premiers principes. Et puis on a le sentiment que cette conscience, cette conviction de la capacité de la raison à atteindre le réel et par voie de conséquence à remonter jusqu'à Dieu, principe de toute chose et fin de toute chose, s'est désagrégée progressivement et qu'on en est arrivé à une conception guerrière de la philosophie. On se souvient de la phrase de Nietzsche, j'ai une conception guerrière de la philosophie parce que la philosophie est toujours, la vérité est toujours le fruit d'un combat. C'est une phrase qui a traversé également tout le XXe siècle, on retrouve chez Foucault, chez Derrida, chez Bernard-Henri Lévy. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui signale justement une perte d'abord de confiance dans la capacité de la raison à saisir le vrai et le réel, et deuxièmement une perte de confiance dans notre propre capacité justement à atteindre le réel. Et là, la figure de Kant est évidemment une figure essentielle, me semble-t-il.
Sur la question des époques philosophiques, je ne peux pas vous répondre en peu de temps. La vérité captive, le titre l'indique bien, montre à quel point la recherche philosophique a rendu ce qui la motivait captif de ses propres méthodes. Alors vous évoquez certains noms, Horribili Referens, Foucault, etc. Bon, chercher l'erreur, Platon, Descartes, Kant, Hegel, Foucault, et alors Bernard-Henri Lévy. Bon, donc là, vous voyez, il suffit de citer les noms propres.
Mais précisément, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes sont considérées comme philosophes, en tout cas se revendiquent comme philosophes.
C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour
laquelle. C'est la raison pour laquelle.
Alors bon, Bernard-Henri Lévy, on se demande pourquoi il ne se revendique pas. La seule chose qu'il ne revendique pas, c'est l'imbécilité, c'est pourtant la chose qu'il y aurait le mieux. Bon, quant à Foucault, etc., bon, s'ils ont essayé, contrairement à Bernard-Henri Lévy, s'ils ont essayé de travailler un peu. Il y a des anecdotes très, très intéressantes, nous n'aurons pas le temps de les évoquer, sur Foucault et Bernard-Henri Lévy, à l'époque où l'un allait suivre les cours de l'autre à l'école normale supérieure. Mais bon, donc la question c'est justement qu'il y a les époques où il y a des gens comme Foucault et compagnie, et des Derrida et les compagnies, etc. Cette époque-là qui fait coïncider la philosophie avec des œuvres aussi nulle, bon, ne peut plus être appelée une époque de pensée, une époque d'art, une époque de philosophie. Bon, c'est ce que la vérité captive appelle la misosophie, précisément, où les valeurs ont été non plus seulement brouillées sur le plan relativiste, c'est-à-dire où bon, on ne sait plus très bien. La misosophie, c'est la haine de la sagesse. C'est le contraire de la philo.
Qui est l'amour de la sagesse. C'est la définition
de la sagesse. De la Sophia. Donc de la sagesse, de la science de la vérité. Donc aujourd'hui c'est la misosophie au sens où on ne va pas seulement brouiller les repères, brouiller les polarités, le plus le moins, le haut le bas, le bien le mal, le vrai le faux. Non, on a dépassé ce qui s'appelait la postmodernité et qui brouillait effectivement ces repères. Aujourd'hui on rentre dans cette phase d'outre-modernité où on ne se contente pas de contester l'existence d'une différence de valeur. Aujourd'hui on va aimer véritablement la nullité, la laideur, la vilainie, la fausseté, etc. On va les mettre en avant. Et c'est quand vous aurez véritablement affirmé que la nullité est une belle chose, est souhaitable, est meilleure, donc quand vous aurez affirmé ce propos misosophique, que vous aurez fait un acte d'outre-moderne, et non plus de post-moderne, et c'est là que vous aurez particulièrement bien illustré l'époque remarquablement originale dans laquelle nous pataugeons, avec les gentils Foucault et Derrida et que sais-je encore. Hein. Bon, donc toute cette époque, si vous voulez, est le fruit, et c'est ce que montre cet ouvrage, donc La vérité captive, est le fruit d'un cadre spéculatif précis qui a été dessiné au fur et à mesure des différentes époques et est le fruit surtout d'un refoulement d'une ontologie trinitaire que la philosophie n'a jamais voulu assumer parce qu'elle n'a jamais voulu non plus assumer la structure réflexive de la pensée au sein de laquelle se trouve cette image de la Trinité. Entre Trinité et réflexivité, il y a toute la grandeur et toute la beauté l'image de lui-même que Dieu met en nous fait assumer à l'humanité.
Alors c'est sans doute l'une des parties les plus intéressantes de votre ouvrage, La vérité captive, paru aux éditions du Cerf et Ad Solem. C'est justement cette manifestation de ce refoulé fondamental qui est le refus, ce que vous appelez le refus de la transcendance et du transcendant. Et de ce fait, effectivement, le refus finalement, de reconnaître et d'adorer cette Trinité sainte que vous manifestez par ailleurs, dont vous signalez à quel point elle est présente dans la création.
Oui, alors en même temps, c'est un livre de philosophie et non de théologie, donc je ne pars pas, si vous voulez, d'un présupposé chrétien, simplement je montre que...
La théologie n'a jamais d'un présupposé, de toute façon.
Non, mais elle a un discours au sein duquel la foi est présente. Là, je pars, si vous voulez, de rien du tout, et je montre que, tout simplement, la rationalité ne sera rationnelle que si elle arrive à une conclusion chrétienne. Moi, si vous voulez, si Dieu existe, ce n'est pas de ma faute. C'est ce que montre la raison pour pouvoir demeurer rationnel.
C'est ce qu'a toujours affirmé, du reste, la théologie catholique la plus orthodoxe.
Oui, c'est
non seulement de,
c'est pour
de,
ça que je,
sens de Dieu,
c'est
mais la capacité de la raison à reconnaître, à accéder à la reconnaissance pleine.
C'est pour ça que je dors sur mes deux oreilles quand je pense au magistère. Donc, simplement, j'ai voulu montrer tout simplement que là, il y avait un couple que la philosophie avait toujours refoulé, le couple transcendance du divin, transcendance au sens fort, c'est-à-dire un Dieu qui n'est pas l'unité du monde, qui n'est pas l'âme du monde, qui n'est pas le transcendement, c'est-à-dire l'animation du monde, mais la transcendance au sens où c'est une souveraineté créatrice qui n'a rien à voir avec le monde, qui ne se confond pas avec elle, et qui n'est pas l'effet que produit Dieu dans le monde. Dieu ne se confond pas avec son effet. C'est le premier point. Et le deuxième point, ce binôme que la philosophie n'a jamais pris en compte, autrement que pour le réduire d'une façon ou d'une autre, c'est la réflexivité au cœur de l'homme, la réflexivité qui permet de mettre à distance le monde, et ce monde qu'elle met à distance excepte l'homme du règne végétal, du règne organique.
L'animal sait, l'homme sait qu'il sait.
L'homme sait qu'il sait, l'homme sait qu'il sait qu'il sait, etc. Et il peut reculer comme ça indéfiniment, il peut rétrocéder vers la vision qu'il prend des choses, vers la vision de la vision qu'il prend des choses, etc. Ce couple, transcendance, réflexivité est ce que la philosophie a totalement évacué, alors que c'est à partir de là qu'elle pourrait elle-même savoir d'où son propre discours est possible. Elle a refusé les conditions de possibilité de son propre discours. Et c'est cela qui me paraît extrêmement, extrêmement dommageable pour la rigueur même du discours philosophique. Si jamais elle arrive à fonder son discours, eh bien, alors elle sera véritablement rationnelle.
C'est dans l'espoir qu'effectivement la philosophie puisse retrouver cette voie et ce chemin de la rationalité que nous conclurons pour aujourd'hui. Pour tous ces éclairages, Maxence Caron, un immense merci.
Merci.